Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Caroline Thibault Thompson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référente hébergement et aussi dans l'animation socio-professionnelle au sein de l'Office de tourisme. Et face à vous, nous avons Sandy Delors. Bonjour.
Bonjour.
Sandy Delors, vous êtes en missionnée au sein de la mission locale. Et vous nous parlerez un peu de cette implication de la mission locale aussi dans cette perspective estivale du tourisme sur laquelle nous allons parler. Et précisément avec ces 6e rencontres qui s'organisent donc le 30 mars à Châtillon-Andiwa. C'est un rendez-vous proposé aux professionnels du tourisme afin d'établir peut-être une sorte de cahier des charges ou peut-être aussi un carnet de bord à venir pour cette saison. Et donc, avant tout, Caroline Thibault Thompson, qu'est-ce qui vous a amené dans cette activité sur le tourisme ?
Ah, c'est un peu le hasard. Je suis arrivée dans le Diwa il y a 7 ou 8 ans de cela. Et puis, je me suis retrouvée dans une foire à l'emploi, comme on en faisait avant, mais qui ne se font plus, a priori. Et j'ai trouvé un poste de conseillère en séjour. Je n'étais pas du tout prête à répondre à cette annonce-là, parce que j'étais plutôt sur de l'animation auprès des enfants. Donc, j'étais venue peut-être faire une saison dans les campings pour faire de l'animation. Et puis, voilà, j'ai vu que ça correspondait aux choses que je pouvais faire en tant que conseillère en séjour, même si je ne connaissais pas très bien le territoire, hein, forcément, je venais d'arriver. Je me suis un peu jetée à corps perdu sur tout ce qu'il y avait à voir à faire dans le Diwa. Et puis, voilà, je suis passée de conseillère en séjour. Après, j'ai commencé à m'occuper des hébergements et puis dernièrement, l'animation des socioprofessionnels au sein de l'équipe.
Et voilà, ainsi depuis 2017. Sandy, pareil, hein, l'application de la mission locale dans cette saison dédiée au tourisme, est-ce qu'on peut la définir ?
Oui, absolument. Bah, il faut déjà présenter la mission locale, peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas vraiment au courant de notre activité. Les missions locales, elles ont pour mission d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire avec ou sans qualification, dont l'envie est de trouver une place dans la vie d'adulte, de prendre de l'autonomie, gagner en indépendance, trouver son premier emploi, un logement, développer sa mobilité ou trouver tout simplement son projet professionnel. La mission locale Vallée de la Drôme, donc elle est située sur le territoire qui est assez étendu puisqu'on est sur l'antenne de Die, mais aussi à Cré jusqu'à Livron-Loriol. Donc ça fait un grand territoire à couvrir où on accompagne les jeunes qui y sont présents. L'antenne de Die, elle est constituée de 4 personnes, dont 2 conseillères en insertion socioprofessionnelle qui ont cette mission d'accompagner les jeunes qui viennent sur notre antenne, donc des jeunes Diwa. L'année dernière, pour donner un ordre d'idée, ils étaient un peu plus de 200 à être accompagnés. Voilà, et qui dit emploi sur le Diwa dit forcément saisonnalité. C'est une réalité et c'est forcément traité avec nos jeunes parce qu'à un moment, on est aussi confronté à des périodes plus calmes en termes d'embauche. Entre octobre et mars, on va dire que c'est quand même la période vraiment calme, quand on est sorti des vendanges. Et après, repart la saison touristique où les jeunes peuvent plus prétendre à des opportunités d'emploi en lien avec les acteurs du tourisme. Donc c'est forcément une question qui est abordée avec les jeunes qu'on accompagne.
Notamment pour les officines de tourisme dans d'autres villes du Diwa, elles vont se réouvrir justement pour la saison estivale.
Oui, tout à fait. Alors, on a 5 bureaux d'accueil hein, sur le Diwa, dans le périmètre de la communauté des communes du pays Diwa. Die est ouvert à l'année, donc on est 10 personnes à l'année. Et on a une branche à Luz-la-Croix-Haute, où il y a quelqu'un qui est là en permanence, mais qui travaille plutôt maintenant en back-office, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément ouverte au public, elle va l'être au moment des vacances. Et après, Châtillon-Diwa, Luc-en-Diwa, La Motte-Chalancon sont des bureaux qu'on ouvre plutôt en haute saison, à partir du printemps jusqu'à septembre. Ça dépend des années, selon la fréquentation, en fait. On ajuste hein, à chaque fois. Et on est en train de tisser des liens avec le TIS, justement, sur la vallée de la Rouanne. On change un petit peu de mode de fonctionnement. Avant, on avait vraiment une saisonnière qui était là sur 2 mois. Et maintenant, on va passer une convention avec le TIS pour qu'il y ait à l'année de l'information touristique, qu'on partage les choses pour les accompagner à accueillir des touristes, puisque de toute façon, en hiver, il y en a un petit peu aussi sur les ailes de saison, et donc elles le font de toute façon. Donc, voilà.
Alors, ce 30 mars auront lieu ces 6e rencontres, et on peut peut-être définir ce qui a initié ces rencontres.
Oui. Alors, initialement, en fait, dans le milieu du tourisme, entre professionnels, on fait encore ce qu'on appelle des bourses d'échange de documentation touristique. Alors, c'est tout bête, mais on produit tous, dans nos secteurs respectifs, beaucoup de documentation. Par exemple, nous, on a un guide d'accueil, on a un guide qui s'appelle « Randonnée toute l'année » pour savoir où c'est qu'on peut aller randonner avec son chien. On a des guides sur les circuit VTT, et chacun produit tout ça, et en fait, on se met un jour, on se rencontre dans une grande salle et on partage toutes nos documentations parce qu'on va avoir des gens qui viennent et qui disent, moi, je voudrais savoir ce qu'on peut faire dans le haut du Vercors, dans le bas de la vallée. Et donc, on a le stock, chacun a le stock les uns des autres. Donc voilà, ça, c'était la base au début. On s'était dit, ça peut intéresser aussi les prestataires d'avoir nos documentations et les documentations des uns des autres, les flyers, des sites à visiter, des activités, des accompagnateurs en montagne, etc. Et petit à petit, on a commencé à l'étoffer un petit peu, d'où l'idée, c'est de ce forum professionnel qui est nouveau cette année, parce que en fait, on a, de la part de tous nos prestataires, c'est-à-dire qu'on a des restaurateurs, des commerçants, des prestataires d'activités, notamment bien-être, qui sont assez importants, des hébergeurs, des campings, tous ces gens ont des questions. Comment je peux faire pour développer mon activité? J'arrive pas à trouver des gens pour remplir mon restaurant cet été, pour travailler en cuisine, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui. Et nous, c'est pas notre mission. Par contre, on s'est dit, on connaît des gens qui peuvent le faire, on va les inviter. Voilà, donc Sandy est là, elle fait partie de la solution.
C'est là qu'intervient Sandy, cette mission au sein donc, des rencontres.
Oui, alors on n'a pas la baguette magique, mais on va essayer. non, c'est vrai que c'est une super proposition et une belle invitation pour nous parce que ça nous permet d'autant plus de nous ancrer sur le territoire auprès de partenaires, acteurs du tourisme qui sont des acteurs phares en fait de l'embauche aussi. À un moment, ça manque tellement en pic d'activité qu'on ne peut pas passer à côté d'un événement comme celui-ci. Et c'est des questions qu'on retrouve chaque année. En fait, on a déjà un pied dedans, on travaille déjà avec certains d'entre eux. Les gros campings nous ont déjà repérés comme intermédiaires pour faire le lien entre l'offre et la demande des candidats potentiels. Mais c'est jamais très simple. D'une saison à l'autre, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. On relève tous les ans les mêmes challenges de recrutement. Certains font appel aux locaux, d'autres pas. Voilà, parce que on essuie des plâtres, on fait des belles rencontres, c'est plein de surprises une saison en fait. La question de la fidélisation aussi, on l'a déjà traitée avec certains d'entre eux et nos partenaires France Travail, qui sont aussi nos collègues de l'agence de Cré, parce qu'on forme ensemble ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi. Et on a déjà été associés sur des actions communes qu'on a menées ensemble sur le territoire pour essayer d'accompagner au mieux ces acteurs du tourisme qui sont en difficulté chaque saison ou qui, en amont de la saison, veulent éviter de rencontrer ces mêmes problématiques pour les anticiper le plus possible et donc de s'appuyer sur nous pour aller à la pêche aux candidats, au profil recherché adéquat en tout cas pour leurs besoins. On fait au mieux avec les personnes qu'on reçoit. C'est une aubaine pour les jeunes. Parce que certains postes ne demandent pas d'expérience ou de qualification. Donc ça permet un vrai tremplin professionnel et une expérience à ajouter sur son CV proche de chez soi. C'est pas très engageant en termes de mobilité, même si on est sur un territoire étendu avec peu de transport. Voilà, on va pas la refaire, celle-là on la connaît bien. Mais en tous les cas, c'est quand même pour nous un élément essentiel où en tout cas on se doit d'intervenir. Et donc l'invitation de l'Office de tourisme, elle tombait très bien. Ça permet de développer ce réseau qu'on a commencé depuis quelques années déjà à établir. Il y avait la question du forum il y a quelques années. On l'a déjà porté, ce forum emploi sur la saisonnalité. Ça rassemblait plus de 400 personnes pour une centaine de postes. Voilà, c'était quand même un événement phare sur le Diois parce qu'on avait déjà identifié à l'époque que c'était un besoin essentiel pour nos recruteurs du territoire d'être présents et d'anticiper les embauches de saison pour rencontrer un maximum de monde en un temps record. Voilà, on optimise, c'était ça la règle. Donc cette année, c'est une première pour nous en termes de présence, de rencontres avec ces professionnels du tourisme et d'essayer. D'ailleurs, il y a nos collègues de France Travail qui seront aussi présents ce jour-là. Ouais. Donc on va essayer de faire corps et groupe pour optimiser le plus possible et aider en tout cas ces acteurs du tourisme qui ont des questions sur le recrutement et comment on trouve des saisonniers, dans quelles conditions on réussit nos recrutements surtout. Ça se prépare, en fait, le recrutement. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'arrache, la veille pour le lendemain. Vraiment, il faut faire le point sur ses besoins, identifier les compétences requises chez les personnes. On n'embauche pas quelqu'un juste parce qu'on a un bon feeling. Ça fait pas tout le travail, en fait. C'est là où on peut se retrouver le bec dans l'eau en plein milieu de la saison à devoir rechercher de nouvelles personnes. Voilà, ça nous arrive d'avoir les appels des employeurs en PLS carrément, en disant « là, il me faut quelqu'un pour demain parce que là, j'ai plus personne en réception, dans mon camping, ça va pas le faire, quoi. » Voilà, c'est une réalité.
Caroline Thibault Thompson, ce forum répondait aussi à une demande justement du secteur professionnel du tourisme sur le Diwa et au-delà.
Comme je l'ai dit, on a ces demandes qui venaient d'un petit peu tous les secteurs avec lesquels on est en contact. Et en même temps, c'était aussi, nous, une ouverture, en fait. C'est vraiment un régal de t'entendre parler, Sandy, parce que je réalise à quel point on a, nous, ces zones d'ombre, un petit peu, ces gens comme ça qui gravitent autour et qui sont super importants, comme vous, la mission locale ou France Travail. Mmh. On ne sait pas trop ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Et du coup, là, c'était à la fois l'occasion pour nous de nous rencontrer et pour faire profiter nos prestataires aussi de ça. On aura la chambre de commerce de la Drôme et aussi de l'industrie, la chambre de commerce d'industrie de la Drôme. Bon, je pense que ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir des conseillers spécialisés dans le tourisme pour venir répondre à ces questions. Et du coup, voilà, c'était un peu un double besoin.
Les entreprises qui viendront ou qui ont participé, est-ce qu'elles ont pu fidéliser leur activité auprès d'intervenants, de salariés ou alors est-ce que chaque année, elles sont en demande de nouvelles personnes?
En fait, tout simplement, en mars 2025, on a monté une action commune avec nos collègues de France Travail de Cré. Et l'objectif, c'était de réunir certains professionnels du tourisme, des acteurs. On a fait de la prospection commune, on s'est rendu sur place auprès des restaurants, des campings, à des binômes Mission Locale France Travail, d'agents qui se sont rendus sur place pour prendre la température avant la saison auprès des entreprises du tourisme et voir justement où étaient les postes où il n'y avait pas encore de recrutement acté et où étaient ressenties les difficultés à venir. Donc le but, c'était de faire venir après ces entreprises rencontrées sur place le 17 mars 2025, l'année dernière, donc, chez nous, pour traiter ces questions-là avec ces entreprises et puis donner des atouts ou des conseils, en tout cas, des bonnes astuces de pratique de recrutement à ces entreprises en difficulté et de traiter aussi la question de la fidélisation. C'est-à-dire que, bah oui, d'une année sur l'autre, on se retrouve avec les mêmes galères. Bah, comment on fait pour garder ces saisonniers, en fait? Pour éviter que tous les ans, on ait ces problèmes de recrutement sur le même poste qui est déjà délicat à pourvoir parce qu'il va nécessiter des compétences ou une expérience X ou Y et qu'on sait que sur le marché du travail, les candidatures se comptent sur les doigts d'une main par moment, quoi. D'autant plus sur un territoire qui est certes très touristique, mais un peu isolé aussi, dont on n'a pas beaucoup de possibilités d'hébergement sur place. Ça, pour nous, c'est un vrai critère qu'on prend en compte. Parce que je parlais des jeunes, mais pas que. En fait, me faire 10 lucs tous les jours quand on n'est pas mobile, ça devient un challenge, en fait. Même en pleine saison, on veut pouvoir arriver à l'heure. Quand on n'est pas hébergé sur place, ça devient plus compliqué de s'engager. Et la fiabilité, elle peut être remise en question au fur et à mesure de la saison. Voilà. Donc là, c'était de donner un peu des pistes de réflexion aux entreprises du tourisme. Dire, là, vous savez que c'est engageant. Si vous embauchez telle personne qui habite loin, ça risque de craquer en cours de saison. Voilà. Donc, la fidélisation, pour nous, elle semble essentielle. Elle est gageure aussi du bon traitement de l'employeur envers son salarié. Donc, quand un salarié qui est satisfait, il revient l'année d'après, en fait. C'est bête et méchant, hein, comme un client dans un commerce. On est bien servi, bien accueilli. On a tendance à revenir. Dans le milieu professionnel, il n'y a pas de secret. C'est la même règle, en fait. Ça marche dans les deux sens, hein. C'est pas que l'employeur qui doit se plier aux besoins des saisonniers, parce que ça aussi, on a un peu tout vu et que nos employeurs ont certaines mauvaises surprises, on ne va pas se mentir. Donc, c'est aussi aux saisonniers, c'est du donnant-donnant, d'adapter aussi. Là, il y a un geste qui est fait pour moi, à moi aussi de jouer le jeu de ce qui est attendu sur ma mission, en fait, sur le poste, et de bien réaliser ce qui est attendu, mes missions. Voilà, donc la fidélisation, elle est quand même hyper importante et j'espère qu'on pourra en parler ce jour-là avec les acteurs du tourisme parce que pour moi, c'est un sujet qui est prédominant, en tout cas pour éviter les mêmes galères chaque année. Alors oui, c'est pas simple, il y en a qui vont embaucher des étudiants, ça va durer le temps des études. Effectivement, à un moment, ça va tourner, quoi. Mais voilà, sur des gens qui veulent vivre sur leur territoire, qui veulent rester sur le Diwa parce qu'ils y tiennent, bah, c'est d'autant mieux si les employeurs peuvent s'appuyer sur eux chaque année, comment on fait pour les garder, quoi, et limiter ce turnover estival.
Alors, si c'est possible, j'aurais bien aimé rebondir sur ce que disait Sandy à propos de la mobilité, parce que sur ce temps de rencontre, on va avoir Thomas Prel, qui est le référent sur le Diwa de Dromolib. Et eux, en fait, une de leurs missions, c'est justement de voir comment ils peuvent aider, par exemple, des saisonniers qui habitent assez loin. Ils ont des propositions, alors il en parlera mieux que moi, hein, mais d'après ce que j'ai retenu, de, par exemple, pouvoir proposer à prix vraiment dérisoire une location de vélo électrique pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail, par exemple. Et ça s'étend après pour eux aux touristes. Donc ils aimeraient aussi pouvoir proposer la même chose aux gens qui viennent en train à Die. Donc il y a tout un volet à la fois mobilité, tourisme durable et emploi saisonnier. Donc c'est assez transversal. Donc Dromolib sera là pour pouvoir parler de ces propositions.
Voilà, c'est lié par rapport justement à la mobilité douce. Hein. Ça s'adresse ne serait-ce qu'aux employés, mais aussi pour le tourisme durable. Alors, comment s'articule justement cette proposition avec l'Office de tourisme pour ces rencontres?
Alors, le tourisme durable, bah forcément, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens dans le Diwa, et tant mieux. On est quand même reconnu un peu pour être plutôt engagé de ce côté-là. Cette fois-ci, on aura comme invité, alors elle s'appelle Bénédicte Séguré, elle est la référente tourisme durable à Drôme Attractivité. Et Drôme Attractivité, c'est l'agence d'attractivité de la Drôme, c'est eux qui nous font rayonner la Drôme au national, au départemental et voire à l'international. Et voilà, c'est une personne qui est missionnée pour accompagner tout type de prestataire sur comment devenir de plus en plus écologique. Alors ça peut être, voilà, mon camping, il dépense beaucoup d'argent sur l'eau, par exemple. Je dépense beaucoup d'eau alors qu'on est en pleine sécheresse, ça m'interroge. Et voilà, par exemple, eux, mais aussi le syndicat mixte de la rivière Drôme, il y aura une référente qui va venir. Il y a des solutions pour vérifier combien on dépense, est-ce qu'il y a des fuites, pouvoir un petit peu garder la trame de ce qui se passe. Ça peut être de partir sur une labellisation. Il y a plein de labels. Il y a un label accueil vélo, par exemple, si on veut encourager les gens, soutenir les gens qui viennent à vélo, qui ont certains besoins. Voilà, on peut être référé, référent label accueil vélo. On peut voilà, demander des subventions. Enfin, vraiment, là, je vous donne tout en fourre-tout un peu, mais il y a beaucoup, beaucoup d'aides, beaucoup, soit de l'accompagnement, soit carrément des financements. Et voilà, des gens comme... Il y a les éco-hébergeurs de la Biovallée aussi qui vont venir. Alors là, c'est vraiment des hébergeurs engagés vraiment très, très concrètement chez eux. Et puis, il y a des échanges de pratiques, du tourisme apprenant, ils appellent ça. Et voilà, il y a beaucoup de travail concret qui est fait chez les hébergeurs pour être de plus en plus écologiques dans leur pratique.
Et ça sera aussi un moment pour ces professionnels de donner leur avis sur l'Office de tourisme et peut-être de proposer des souhaits aussi ou des solutions.
Oui, tout à fait. On avait envie d'avoir une table où les gens pourraient donner leur avis. Alors, on est en train d'y réfléchir encore. On s'est dit que peut-être le mieux, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un en face où il y aurait peut-être une petite inhibition à dire vraiment ce qu'ils avaient sur le cœur. Voilà, on est en train de trouver une façon pour que les gens puissent vraiment dire ce qu'ils aient envie de partager sur l'Office de tourisme. Bah, ça peut être du positif aussi, ça nous fait du bien, hein, parce que nous, on travaille d'arrache-pied toute l'année pour ces prestataires et ça nous fait vraiment du bien d'avoir des retours positifs. Mais ça peut être aussi des suggestions, ça peut être des angles morts qu'on n'a pas vus du tout. Enfin voilà, on a vraiment envie d'avoir le plus en plus de retours des prestataires. Il y a des besoins très différents et voilà, après, c'est d'arriver à s'adapter. Mais déjà, il faut qu'on sache...
Et puis, il y a aussi cet aspect de l'aide la taxe de séjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette difficulté?
Oui, alors bon, là, on rentre vraiment dans quelque chose d'un peu technique.
Mais ça a un peu interpellé les professionnels qui nous
écoutent. Oui, alors ça concerne tous les hébergeurs, les campings, les hôtels, les gens qui ont des meublés de tourisme. C'est une taxe que les meublés... Et si vous demandez aux uns et aux autres, le Diwa n'est pas forcément ultra connu. Donc voilà, il faut qu'il y ait des gens qui fassent la promotion de ce territoire avant même que les gens puissent arriver chez vous. Donc ça sert à ça un peu. Bon, ça embête tout le monde des fois. Et puis après, la raison pour laquelle on a mis une table, c'est que des fois, il y a des petits problèmes techniques. On n'arrive pas à déclarer, on ne sait pas comment calculer. Enfin bon, voilà. Et c'est une facilité. On a mis quelqu'un qui jongle avec ça très bien et qui pourra renseigner les gens s'il y a des questions. Et ça peut être aussi, où va la taxe de séjour, hein. Ça peut être tout à fait venir se renseigner sur ce genre de questions.
Il y a la randonnée, par exemple, qui est une activité très demandée hein, par les touristes en saison d'été. Il y a parfois cet écueil de rencontre avec des patous. C'est aussi un moment de voir comment concilier les deux avec des professionnels de part et d'autre pour trouver des solutions. Donc, est-ce que ça, c'est ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres exemples au-delà de celui-ci?
Alors, nous, on aura une table pour en parler. Alors, on ne prend pas position. Nous, vraiment, notre rôle, c'est on donne de l'information. Et ce qu'on a fait, par exemple, c'est, j'en parlais tout à l'heure, hein, on a fait un petit document où les gens peuvent savoir où c'est qu'ils peuvent aller avec leur chien randonner sans rencontrer des patous. Sur le web, il y a tout un site qui s'appelle Pasto Quesaco qui permet, ils ont appelé ça, il permet de voir où sont les patous, pas tout à fait en temps réel, mais presque, sur les pâturages. Ça s'appelle la map patou. Ça, c'est mignon. Donc voilà, il y a des documents, il y a des vidéos sur comment faire quand on rencontre un patou. Voilà. Et nous, en fait, on est vraiment sur l'information. C'est une réalité de notre territoire. Il y a des fois des difficultés à cohabiter. On a des randonneurs qui viennent et qui, bon, voilà, qui soufflent un peu de se dire oh, j'ai pas envie de rencontrer des patous, j'ai envie de faire telle randonnée avec mon chien. Voilà, on leur explique et ça va être encore l'occasion d'expliquer au moment de ces rencontres.
Ceci dit, il existe une réglementation qui interdit quand même les chiens dans certains territoires de pâturage hein, pour éviter justement des confrontations. Voilà. Il y a divers aspects. Et puis, donc, c'est aussi former hein, le touriste aux pratiques locales hein, et de pouvoir profiter sans pour autant déranger.
Oui, c'est tout à fait ça. On ne se rend pas vraiment compte, mais l'Office de tourisme a un grand rôle à jouer, plutôt éducatif, dans tout ce qui est... Bah, ça commence, par exemple, ça peut être justement toutes ces histoires de pastoralisme, ça peut être aussi l'environnement. On a un gros volet sur la rivière, mettons. On sait très bien qu'en été, les gens aiment bien faire des barrages dans la rivière. Et c'est vraiment pas bon du tout pour la rivière. D'ailleurs, à la fin de la saison, il y a beaucoup de gens qui les enlèvent, ce qui est super. C'est une très belle initiative. Mais bon, s'ils n'étaient pas faits au départ, ce serait encore mieux. Et nous, ça fait partie de notre rôle. Il y a des gens qui viennent de partout. Ils n'ont pas les codes, des fois, en fait. Ils ne savent pas qu'on ne peut pas aller faire un bivouac n'importe où sans demander l'autorisation, parce que souvent, les terrains sont privés. Donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et nous, on est là pour les accompagner et leur faire prendre conscience, en fait, de tout ça.
Sandy, je me tourne vers vous. Quels sont les secteurs d'activité? On peut peut-être pressentir les campings, l'hôtellerie, la restauration, mais quelles sont les activités à laquelle vous apportez une aide ou une recherche?
Alors effectivement, j'ai regardé un peu les statistiques de l'année dernière et sur les entrées en emploi que nous avons eues en 2025, c'est la première position, c'est pour l'hôtellerie, tourisme, animation, loisirs et la restauration. C'est vraiment le secteur qui a été vraiment identifié et auquel ont accédé de nombreux jeunes l'an dernier Pour les aider, j'ai pas précisé, mais j'ai une collègue qui sera présente avec moi le 30 mars, donc Mylène Moissonnier, qui est notre chargée de relations entreprises et qui a ce rôle majeur d'entrer en relation avec les entreprises du territoire à l'échelle de la vallée, mais elle a aussi celui du Diois, et de rencontrer nos jeunes et de faire matcher ces deux mondes, en fait, donc le plus fréquemment possible pour que tout le monde se connaisse, lève des a priori sur les profils jeunes, les profils entreprises. Moi, je redoute un peu d'entrer dans le monde du travail, la vision employeur, ça a l'air un peu strict. Et puis, la vision entreprise vis-à-vis des jeunes, c'est pas foufou. À des moments, on a un peu l'impression que au moins ils en font, au mieux ils se portent. Et en fait, c'est de déconstruire tout ça. Donc, c'est un long travail qui est mené. Ça fait plus de 30 ans qu'on est sur le territoire. Donc, ça commence bien à prendre effet. Mais ce travail, il est mené quotidiennement auprès de toutes les entreprises du territoire. Il ne faut pas oublier qu'on est un territoire à 80%, peut-être je suis un peu à la hausse, mais de TPE, très petites entreprises. On est, on va dire, de 0 à 5 salariés. Ça veut dire pas énormément de turnover. Une fois qu'ils ont leurs équipes, ils ne recrutent pas tous les deux jours. Donc, on jongle un peu avec des opportunités d'emploi sur des postes permanents. On travaille beaucoup avec les grandes surfaces au niveau local parce que c'est là où on va trouver des opportunités pour des jeunes qui cherchent à travailler rapidement sans avoir trop d'expérience sur ces métiers-là parce qu'ils peuvent être formés sur place. Donc on a ces métiers-là, on a aussi un peu de bâtiment, mais là on commence un peu à exiger de la qualification si on est au-delà de manœuvre. Les collectivités aussi sont des employeurs sur lesquels on peut s'appuyer. Mais vraiment, là, sur l'année 2025, sur les 293 entrées en emploi, 22%, c'était dans le secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme de manière générale. Ce qui est énorme, en fait, et ce qui atteste encore que l'accompagnement, il est porteur dans ce secteur d'activité et qui révèle que la saisonnalité, pour nous, elle est essentielle pour les jeunes pour être tremplin vers l'emploi. Et en plus, ce qui est intéressant pour certains d'entre eux, c'est qu'une fois qu'ils ont mis le pied dedans, il y en a qui vont avoir envie d'aller faire de la saison en montagne l'hiver. Dire « ouais, ça m'a bien plu, autant je me cherche un resto pour cet hiver en station ». Voilà. C'est les goûts, les couleurs. Après, de toute façon, il en faut un peu pour tout le monde. Mais je trouve ça chouette quand c'est des belles rencontres aussi et que les jeunes gagnent confiance en eux et que la relation avec l'entreprise match. C'est aussi le travail de ma collègue Mylène de sécuriser les parcours. C'est bien beau de faire de la mise en relation, de trouver les offres, de les avoir et de les diffuser auprès des jeunes. C'en est une autre de garder son jeune et que l'entreprise aussi arrive à capter l'attention tout de suite. Donc là, ma collègue, elle intervient de manière régulière entre le jeune et l'entreprise pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci de communication. On est là pour rassurer. Les jeunes ont du mal à se positionner. Des fois, la timidité peut être vécue comme de l'indifférence sur le poste par les entreprises, alors qu'en fait, c'est juste que je n'ai pas osé demander ou redemander, poser la question parce que je n'avais pas compris la consigne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, ma collègue, elle a cette vigilance d'intervenir assez rapidement ou en tout cas de montrer qu'elle est là, qu'elle est présente auprès des entreprises pour pouvoir justement faire le point rapidement et lever des incompréhensions qui pourraient amener à des ruptures de contrat. C'est pas ce qu'on vise. Donc accès à l'emploi, sécurisation surtout. Voilà, pour les deux parties.
Un outil qui fait preuve d'efficacité, certainement, c'est le speed meeting.
Là, c'est vraiment ce qu'on appelle du réseautage. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe localement. Donc, un hébergeur qui va recevoir des gens, il sache que, prestataire d'activité a une nouvelle activité, tel site à visiter propose maintenant... moi, je pense comme ça, à la Grotte de la Luire, à un moment, ils ont fait des concerts dans la grotte. Voilà, donc c'est bien de se tenir au courant. Et les speed meetings, c'est pour ça, en fait. C'est pour venir en petits groupes, 5-6 personnes, parler de ses nouveautés, se présenter si on est nouveau sur l'activité et dire ce qui vous démarque. Parce que voilà, c'est un peu ce qu'on essaie d'affiner maintenant avec les prestataires. Des fois, il y a un peu des difficultés de communication, positionnement, pour que vraiment ils puissent dire, nous on voit de notre œil extérieur, on voit bien que tel prestataire, il a une patte qu'ont pas les autres, quoi. Tel accompagnateur en montagne, il est plutôt, il va être super sur l'accompagnement des enfants, tel autre, il va être plutôt sur telle autre thématique, il est très fort sur telle thématique. Et voilà, c'est vraiment de parler de ça, de se dire, moi, mon truc, c'est telle ou telle chose. Et c'est le lieu pour en discuter.
En ce qui concerne les animations en été, je parle de concerts, de soirées, de festivals. Est-ce qu'il existe, selon vous, une possibilité pour tous ces professionnels de connaître ce que chacun fait pour pouvoir justement ajuster au mieux leurs dates?
Je reviens à une des missions principales de l'Office, c'est l'information. Et donc de ce côté-là, nous, on n'organise pas d'événements en dehors d'animer les prestataires et de créer des événements pour eux qui répondent à leurs besoins. Et du coup, par contre, ce qu'on a, c'est notre agenda des festivités qui... c'est une des pages les plus visitées en été, hein, parce que bien sûr, il y a vraiment un foisonnement dans le Diwa. Pour ce qui est de la programmation en amont, on a en fait les gens qui s'inscrivent assez en avance sur cet agenda vont apparaître. Par contre, je ne suis vraiment pas sûre que les créateurs d'événements soient au courant même qu'il y ait cet agenda, qu'ils le regardent. Voilà, il y a peut-être quelque chose à trouver.
Il y a aussi la bourse d'échange de documentation. Ça permet de connaître encore mieux tout ce qu'on peut trouver sur le secteur du Diwa. Et ça consiste quoi? En flyers, en documentation, des brochures, des cartes de visite
voilà.
Mais est-ce qu'il y a aussi des interlocuteurs qui seraient présents à ce moment-là ou des professionnels?
Oui, en fait, c'est le même principe que nous avons, nous, professionnellement, c'est-à-dire qu'on met à disposition des participants des tables où ils peuvent mettre justement toute leur documentation, leurs flyers, leurs cartes de visite, tout ce qu'ils ont pour communiquer. Et chacun fait son petit marché. Chacun va récupérer, y compris nous, on a nos carnets de voyage qui viennent de sortir là, pour l'année 2026. Donc, ce sera l'occasion d'en récupérer. Et c'est une autre façon de communiquer de façon plus pragmatique avec quelque chose. On a quelque chose à la main et on repart avec quelque chose à la fin de la journée quand on a rencontré tel et tel prestataire.
On passe au buffet qui clôture cette journée, donc.
Oui, alors le buffet, comme le forum est l'après-midi, le buffet est au milieu de la journée. Je peux en profiter, j'aimerais bien, pour parler de la personne qui va nous régaler, parce que vraiment, c'est le cas. J'ai oublié son nom de famille, mais elle s'appelle Kaylig. Elle est au Canfrier Égaré, à Luc-en-Diwa, et elle fait des choses merveilleuses. J'ai eu un super contact avec elle au niveau professionnel. Elle a été super réactive. Enfin bon, on est très contents qu'elle nous fasse à manger sur ce buffet qui va être... il y en aura un petit peu pour tout le monde. Il y en aura pour les végétariens et les non-végétariens aussi.
Voilà, je l'avais interviewée il y a 2 ans, dans le cadre des Barnaves aux artistes. Elle était présente. Et puis, on peut parler du public, donc les prestataires touristiques, ça c'est évident. C'est uniquement ce public. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent venir? Non, c'est vraiment un entre-soi.
En tout cas, comme l'ont été pensées les rencontres, c'est avant tout de préparer sa saison entre acteurs du tourisme et professionnels, hébergeurs, restaurateurs, commerçants, se faire passer des infos, nouer des partenariats qui peuvent en plus être bénéfiques pour les clients ou les touristes qui vont arriver. Au plus, on fait vivre notre territoire. Je pense que c'est l'objet de... Je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais bon, je suis une enfant du Diwa aussi, donc je vois bien comment le tourisme évolue. Et je pense que l'objet, c'est de faire vivre le tourisme le mieux possible, que les touristes soient satisfaits de leur séjour. Et pour ça, c'est une information harmonisée, bien diffusée, et pas découvrir en plein milieu de la saison qu'un tel ou une telle faisait telle activité qui aurait bien permis de répondre aux attentes de certains de nos clients ou des clients des acteurs du tourisme. Donc voilà, je pense que c'est une journée qui va apporter des belles choses, en tout cas, à ces professionnels qui vont prendre le temps de se réunir parce qu'ils sont déjà dans les starting blocks de leur saison pour certains. Il y en a qui sont à la veille de l'ouverture avec les vacances d'avril. Donc, c'est bien qu'ils prennent ce temps-là, qu'ils l'investissent parce qu'ils savent qu'ils vont y gagner de l'information. Et puis après, au niveau de l'emploi, il se passera ce qui se passera. On sera là dès le début de la journée. On reste la journée. On va profiter de ce bon buffet, en tout cas, ça met l'eau à la bouche. Et puis voilà, on répondra aux questions le mieux possible.
Je crois que vous aviez chiffré à 220 personnes qui sont intervenues.
L'année dernière, en jeunes accompagnés.
Oui, c'est ça. Mmh. Et justement, est-ce que le problème de l'hébergement a pu être en partie satisfaisant?
Alors, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des mineurs dans ceux qu'on accompagne, qui est en forte augmentation aussi. C'est un public, les 16-18, qu'on voit de plus en plus arriver sur le public des décrocheurs. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais je l'avais sur mon rapport d'activité. Mais le nombre de jeunes en hébergement autonome n'est pas très élevé. La difficulté du logement, c'est un peu comme celle de la mobilité. Elle n'est pas nouvelle sur le territoire. C'est compliqué. Et puis, il faut des revenus surtout. Donc, voilà. À part pour des jeunes en rupture familiale, la plupart du temps, ils sont quand même encore hébergés chez leur famille. Et de toute façon, l'offre de logement n'est pas non plus miraculeuse. On a quelques hébergements sociaux, mais ils ne s'hébergent pas tous les deux jours. Donc voilà, ça répond pas forcément aux problématiques ou aux envies des jeunes de prendre leur autonomie.
Et je pense au camping, par exemple. Il n'y a pas des sites qui proposent un accès hébergement pour ces jeunes professionnels, ces jeunes stagiaires.
Ça dépend. Alors là, alors ça va plutôt être pour leurs propres salariés, ou alors c'est des partenariats oraux ou des accords de principe entre un restaurateur et un camping qui dit bah là j'ai trouvé le cuisinier qu'il me fallait ou la serveuse que je veux pas laisser passer, est-ce qu'il y a moyen que tu lui fasses un prix à la nuit pour qu'elle puisse mettre sa tente dans ton camping? Ça peut, mais c'est quand même pas démocratisé en termes de pratique, parce que c'est assez engageant pour tous les hébergeurs s'ils devaient tous s'y mettre. Déjà, avoir leur propre saisonnier, leur trouver de la place, que ce soit une caravane ou un mobilhome qui partage à plusieurs saisonniers. Donc voilà, c'est des solutions qui sont, à mon sens, encore à travailler, à peaufiner, à développer pour pouvoir permettre à ces jeunes de trouver un emploi ou en tout cas de répondre aux critères exigés par les entreprises. Mais oui, ça se fait, mais c'est encore un work in progress quand même.
L'activité touristique amène aussi sa propre économie. Est-ce qu'on a pu en tirer quelques chiffres des années précédentes? Est-ce que cela va...
Alors moi, je n'ai pas les données chiffrées sur les retombées, mais c'est évident que... Alors, à l'époque, quand je travaillais à l'intercommunalité du Diois, je savais qu'on était encore à 4 000 habitants sur 10, juste 10. Et en l'espace d'une saison, on passait à 20 000 personnes. Alors, j'espère que mes chiffres ne sont pas biaisés, mais en tout cas, la population du territoire Diois, elle est exponentielle. C'est comme si on avait démultiplié les gens qui vivent à l'année sur une période très courte. Je pense que les gens consomment plus au niveau local quand même. Il me semble qu'au niveau interco, ça avait été plutôt identifié. Des touristes extérieurs qui consomment quand même au niveau local. Donc, de fait, c'est une économie sur laquelle... Enfin, on ne peut pas la négliger, en fait. Le Diois sans le tourisme, à mon sens, ce serait quand même une grosse perte économique. Voilà. Mais alors, attention à mes propos, à faire confirmer quand même par les professionnels, notamment sur l'intercommunalité et l'office de tourisme, s'il y a des vraies données chiffrées. Mais quand je vois ce que ça apporte en termes de recrutement et en face de brassage de clientèle, après, d'une saison à l'autre, c'est un petit peu ambivalent. On n'a pas forcément les mêmes retombées. Donc, des restaurants qui ne voient pas un client, parce que le pouvoir d'achat aussi en France... C'est encore un autre sujet sociétal, mais c'est une réalité auquel font face nos acteurs du tourisme, parce que la consommation, elle va dépendre aussi de ce que peuvent se permettre leurs clients et les touristes.
Oui, tout à fait. Dans ce cadre de programme d'animation des socioprofessionnels, on fait une ouverture de saison et puis on fait des bilans de saison aussi. Et ce dont parle Sandy revient chaque année. L'année dernière, c'était très contrasté. C'était vraiment difficile. Alors, nous, on n'a pas de chiffres au-delà de... Nous, on demande à nos partenaires et aux gens qu'on connaît comment s'est passée leur saison, comment... On ne va pas leur demander leur chiffre d'affaires non plus, mais donc, on demande des tendances. Et c'est très, très disparate, en fait. C'est très compliqué d'avoir... Il y en a, ça a super bien marché. Ouais. Et ça dépend. Les restaurateurs, c'est une évidence, en fait. Dans des petits lieux, il n'y a pas beaucoup de restaurants et il y a beaucoup de gens, forcément, ils vont faire une super saison. Dans des lieux où il y en a beaucoup plus, ça va être plus mou parce que le pouvoir d'achat, il n'est pas trop ce qu'il pourrait être. Donc, c'est très contrasté. Les campings font toujours très bonnes recettes. Je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi.
Il y a aussi le conseil en séjour à laquelle vous êtes missionné. Ça répond aussi peut-être à des touristes qui voudraient avoir la possibilité, selon certains investissements, est-ce qu'il leur est accessible, soit du camping ou alors... Est-ce que d'ailleurs le Airbnb aussi fait partie de cette demande d'hébergement? Est-ce qu'elle va croissant sur le Diwa?
Alors, les demandes d'hébergement à l'office de tourisme, il y en a de moins en moins parce qu'il y a des plateformes comme Airbnb, Booking et tous les autres. On pourrait faire toute une émission là-dessus, mais on ne va pas le faire. C'est une nouvelle donnée pour les offices de tourisme. En gros, on ne va pas se mentir, avant, il y avait l'office de tourisme qui connaissait tout le monde, les hébergeurs, etc. Les gens venaient à l'office pour prendre des informations. Maintenant, il y a beaucoup plus d'autonomie. Les gens peuvent se renseigner de multiples façons et réserver directement par ces plateformes très facilement. Du coup, là, nous, on n'a rien à voir avec ces plateformes et on les recommande pas, sauf si vraiment, parmi tout ce qu'on connaît, on n'a plus aucune solution, quoi. Ce qui est très rare quand même. Il y a certains week-ends d'été où bon, on a des gens qui toquent à la porte en disant « j'ai nulle part où aller ce soir », mais c'est quand même très rare.
Caroline Thibault-Thompson, pour les personnes intéressées, comment s'inscrire?
Alors le mieux, c'est de contacter l'office de tourisme, soit en personne, vous venez nous voir, on est 1 rue des Jardins, ou bien vous appelez 04 75 22 03 03. Et voilà, vous aurez Margot à l'accueil qui va vous renvoyer vers moi, soit elle pourra prendre les inscriptions. Mais c'est sur inscription uniquement, comme ça on peut vous accueillir dans les meilleures conditions.
Sandy, Delors, pareil, est-ce qu'il y a peut-être des contacts pour s'informer, particulièrement pour les jeunes?
Alors non, puisqu'il n'y a que nous qui serons présentes ce jour-là pour faire de l'information auprès des employeurs. Mais en tout cas, en tant que mission locale, si jamais vous avez connaissance dans vos familles de jeunes un peu en déperdition, même pas en fait, juste qui se posent des questions sur comment je peux trouver un emploi, me débrouiller un peu plus tout seul et faire le point sur ma situation, on est au 150 avenue de la Clairette à Die. Et vous pouvez nous joindre au 04 75 22 21 04.
Je rappelle ce rendez-vous le 30 mars. À partir de quelle heure?
C'est à partir de 9h.
Ça sera à quel endroit aussi?
À la salle Kubnik, qui est la Kubnik. Salle des fêtes de Châtillon en Diwa.
Donc une programmation qui va occuper toute la journée jusque dans l'après-midi. Hein.
C'est ça, ouais, jusqu'à 16h avec le forum des pros l'après-midi.
Caroline Thibault-Thompson et Sandy Delors, je vous remercie toutes deux d'être venues sur Air Diwa pour nous présenter donc, ces rencontres du tourisme.
Merci. Merci à vous.
Et bonne fin de journée.
Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel, tout cet immense matériel de valeur spirituelle. Le joueur de paires de verres en joue comme l'organiste de ses orgues, mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. Leurs claviers et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers.
se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme autant fleur César. Un peintre a pu jouer les teintes de sa palette. Ce que Platon a produit au cours de ses heures créatrices dans le domaine de la connaissance. Des grandes idées, des œuvres d'art. Ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformés en patrimoine intellectuel. Presque inconcevable. Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où fleurissaient les arts. Un peintre a pu jouer les teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance. Des grandes idées, des œuvres d'art. Ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel, la valeur spirituelle. Le joueur de paires de verre en joue comme l'organiste de ses ordres. Presque inconcevable. Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom. Et théoriquement, cet instrument permettrait de